êtes bien sur Choc FM avec Kitri Hervouet. Je reçois Daniel Bouliane pour son livre Bienvenue à Rocketville, les gérants d'estrade. Nous sommes au Salon du Livre de Toronto. Daniel, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez me parler un peu de votre livre?
En fait, c'est le 8e tome d'une série qui s'appelle Bienvenue à Rocketville. Et c'est une série que j'ai créée parce que j'ai un fils à la maison qui s'appelle Zach. Et quand mon fils était petit, il n'aimait pas lire. Quand il était, en fait, vers 9 ans, 10 ans, il n'aimait pas lire. Et moi, je lui expliquais, écoute, Zach, bientôt, ce sera la 6e année, la 7e, la 8e. Tu dois commencer à lire des romans, passer de la BD au roman. Mais Zach n'avait aucun intérêt pour la lecture. Alors, j'ai décidé de créer cette série-là, dans laquelle il serait le héros, dans son sport préféré. Donc, j'ai utilisé le hockey pour arriver à mes fins. Alors, la série a été créée pour faire lire mon fils et, en fait, faire lire les jeunes qui n'aiment pas la lecture. Donc, il y a de plus en plus de pages, de moins en moins d'images. Les chapitres vont s'étirer d'un livre à l'autre. Alors, c'est un peu une gymnastique mentale, je dirais. Donc, on entraîne les jeunes, tranquillement, pas vite, à lire de plus en plus des gros bouquins. Ce qui fait que, quand ils vont arriver en 7e, en 8e année et qu'ils vont devoir lire ce gros genre de livre-là, eh bien, ils auront eu leur entraînement et seront capables de le faire de manière consciente et avec plaisir en plus.
Et depuis combien de temps vous écrivez?
Je te dirais la vraie réponse, j'écris depuis que je suis tout petite. En fait, dès que j'ai compris qu'avec des lettres, je faisais des mots, avec des mots, je faisais des phrases, j'ai décidé que j'allais devenir auteur. C'était vraiment mon rêve de petite fille. J'ai publié mon premier roman en 2003, donc j'ai réalisé ce rêve-là de petite fille en 2003 et j'ai trouvé ça tellement agréable que je me suis dit que j'allais continuer. Alors donc, je suis maintenant officiellement auteur depuis 13 ans. Alors nous sommes 13 ans plus tard, 16 romans plus tard. C'est toujours aussi agréable, c'est toujours aussi excitant et c'est toujours aussi magnifique que la première fois. La passion ne se perd pas, l'excitation ne se perd pas non plus. Alors voilà.
Et est-ce que vous pourriez me dire un peu le synopsis? Donc, vous avez décidé d'écrire cette série de tomes pour votre fils, mm-hmm. qui s'appelle Zach. Mais est-ce que vous pourriez me parler un peu des personnages,
oui.
du monde du hockey?
Oui, avec plaisir. Alors, la série commence alors que les joueurs sont de niveau atome, ils ont donc 8 ou 9 ans. Et Zach, le personnage, va recevoir un équipement qu'on se transmet de père en fils depuis des générations. Et cet équipement-là garde les qualités de ceux qui l'ont porté au fil des temps. Alors, quand Zach l'enfile, il devient meilleur que Crosby, il devient meilleur que toutes ses idoles. Et cet équipement-là va le suivre de temps à autre dans les tomes qui vont suivre. Comme je vous disais, on rencontre les personnages, ils ont 9 ans. La série va se terminer alors qu'ils vont être de niveau bantam, donc en 8e année. Alors, on les suit dans leur évolution d'enfant jusqu'au niveau de l'adolescence. Et à travers les 9 romans, parce qu'il va y en avoir 9, on traite divers thèmes de hockey. Alors, dans un, j'ai parlé de tradition, on a parlé des mauvais entraîneurs qui veulent gagner pour les mauvaises raisons, on a parlé de l'histoire du hockey, de la présence des filles dans les équipes, les blessures, les commotions cérébrales, l'esprit d'équipe. Alors, et le dernier, le plus récent, les gérants d'estrade, c'est une expression consacrée chez nous au Québec, je ne sais pas si elle est connue chez vous, mais les gérants d'estrade, ce sont ses parents qui crient trop, ou encore ses fans qui crient trop, qui crient des mauvaises choses. Alors, cette année, eh bien, les joueurs sont un petit peu tannés, se disent, on a 14 ans maintenant, on est en 8e année, on connaît notre hockey, on sait ce qu'on a à faire, on aimerait ça que vous, les parents, vous restiez à l'extérieur de la glace, mais les parents refusent de comprendre, se disent, on a le droit de crier, on a le droit de se faire entendre. Alors, les joueurs, je dirais, après un ras-le-bol généralisé, vont décider d'aller tout simplement en grève, de faire comme leurs idoles de la Ligue nationale parfois. Alors, ils tombent en grève et ils vont se négocier la première convention collective du hockey mineur. Alors, on va essayer d'établir qu'est-ce qui se dit et qu'est-ce qui se dit pas dans un aréna. Donc, quels sont les droits des parents, jusqu'où on a le droit d'aller quand on est un parent ou un fan fini, donc un partisan de hockey, qu'est-ce qui est permis?
Et comment vous trouvez l'inspiration? Parce que au début, ça a débuté avec votre fils qui jouait au hockey. Mm-hmm. Mais après, pour en faire un livre et même 8 tomes et bientôt un 9e, comment vous trouvez l'inspiration?
En fait, l'inspiration est venue, comme tu le dis, de mon fils. L'inspiration est venue aussi de Maurice Richard, qu'on appelle le Rocket, qui était un très grand joueur du Canadien. C'est d'ailleurs pour ça que la série s'appelle Rocketville. Et mon fils a été un joueur de hockey pendant plus de 8 ans. Alors, ces livres-là ont tous été écrits à l'aréna pendant que mon fils pratiquait sur la glace. Alors, pendant, j'avais l'action qui se déroulait devant moi. Mais aussi, quand j'ai commencé la série, j'avais déjà sélectionné les 9 thèmes que je voulais traiter. Donc, comme je le disais, les blessures, les mauvais entraîneurs, tout ça, parce que ce sont des thèmes qu'on retrouve vraiment dans le hockey qui sont importants. Donc, ces 9 thèmes-là étaient décidés. J'ai créé une espèce de synopsis autour de ces 9 thèmes-là. Et je me suis posé la question, après, j'ai regardé ça d'un œil froid. Est-ce que ça va être intéressant? Est-ce que je suis capable de faire 9 romans? La réponse a été oui, mais l'inspiration vient vraiment directement de sur la glace. Et ce qui est le fun avec cette série-là, c'est que tous les personnages qui sont à l'intérieur, tous les joueurs de hockey, ils existent vraiment. Parce que quand le premier tome est sorti, les jeunes sont venus me voir, ils m'ont dit « Daniel, est-ce que moi je pourrais faire partie de ta série? J'aimerais ça être comme Zach, être un joueur dans ton équipe. » Alors, ça a été vraiment les jeunes garçons qui me l'ont demandé, qui ont eu l'occasion de devenir. Il y a seulement un personnage qui n'existe pas, et c'est Nathan. Parce que dans le premier tome, Nathan n'est pas nécessairement le garçon le plus gentil sur la planète, et il va découvrir le hockey, lui, pour les mauvaises raisons. C'est un petit garçon qui a beaucoup de colère en lui, et il va découvrir le hockey en se disant « ben je pourrais jouer robuste, donc toute l'agressivité que j'ai en moi pourrait passer dans le hockey. » Et il va rapidement comprendre que le hockey, c'est pas un sport qu'on utilise pour se libérer d'une agressivité ou d'une colère, c'est un sport qu'on pratique parce qu'on est passionné et qu'on aime ça. Alors, on voit à travers ces romans-là que le hockey a de grands pouvoirs. Moi, c'est tout le temps comme ça que je le dis. Le hockey a de grands pouvoirs, entre autres celui de tenir nos jeunes en forme et aussi celui de les tenir en forme mentalement parce que ça leur donne le goût de lire.
Et les 8 autres livres, parce que vous m'avez dit que vous avez publié 16 livres depuis 2003.
Oui.
Donc, les 8 autres livres que vous avez publiés actuellement, ils traitent de quoi?
Ben, en fait, il y en a 8 de Rocketville. Il y en a la première série, les 3 premiers romans que j'ai publiés, c'était une série sur la magie, une petite demoiselle qui découvrait un magicien qui vivait dans un arbre cru derrière chez elle. Et grâce à lui, il pouvait se promener dans différents mondes. Alors, il devait aller vivre des missions dans différents mondes et différents temps. Donc, c'est une série qui était un petit peu fantastique. Ensuite, je suis allée faire un tour du côté des adolescents. J'ai publié un livre qui s'appelle « Voyage au centre d'un vidéo poker » qui est sur la dépendance au jeu de hasard. Alors, comment se rendre compte qu'on est dépendant? Une fois qu'on a compris qu'on vit avec cette dépendance-là, comment se sortir de cette dépendance-là, comment y résister? Ça a été ma seule incursion chez les adolescents. Ensuite, j'ai commencé la série Rocketville. J'ai créé aussi un livre qui s'appelle « Dana et Dahlia », dont je suis vraiment très fière. C'est mon seul projet fille, d'ailleurs. C'est l'histoire de deux jeunes demoiselles qui ont été intimidées pendant tout leur primaire et qui, arrivées en 7e année, se disent « Enfin, ma vie va changer, je change d'école, je change d'entourage. » Elles se rencontrent toutes les deux, deviennent de meilleures amies. Et là, l'intimidation recommence et les filles, à ce moment-là, vont se dire « Non, maintenant, on va utiliser l'humour et l'autodérision. » Alors, elles vont apprendre à s'aimer comme elles sont, avec leurs qualités, leurs défauts. Elles vont apprendre à rire d'elles-mêmes. Et grâce à l'humour et grâce à l'autodérision, elles vont vaincre cette intimidation-là. J'ai créé aussi la série « Les champions », qui va être sur tous les autres sports qui ne sont pas le hockey, parce que j'ai compris qu'utiliser le sport pour accrocher les jeunes à la lecture, c'est une bonne méthode pour le faire. Donc, la série « Les champions » commence avec la course automobile, mais ensuite, ça va être un sport différent pour chaque roman. Alors, on va parler de parcours, de boxe, de basketball. Il va y avoir 1001 sports dans cette série-là. Et la série la plus récente s'appelle « Gang de ruelle ». C'est pour les plus petits. C'est une série pour les 6 à 8 ans. Ce sont les aventures de 6 amis qui vont libérer un génie et qui, lui, leur offre de réaliser leurs souhaits. Et ils vont choisir de devenir des super-héros. Et avec de grands pouvoirs, viennent de grandes responsabilités. Alors, ils vont devoir avoir des missions. Finalement, ils vont avoir des missions et ça va être de sauver les enfants en danger, que ce soit au Québec, au Canada ou partout dans le monde. Et le but de cette série-là, c'est de faire comprendre aux jeunes que tous les super-héros ne portent pas des capes et des collants. Nous sommes tous des super-héros dans notre vie, juste de par le fait de qui on est, de quelles capacités on a. On a le pouvoir d'aider des gens, des fois. Un professeur qui t'enseigne à lire et à écrire et à compter, c'est un super-héros parce qu'il fait de toi quelqu'un d'intelligent. Un docteur qui sauve des vies est un super-héros. Un policier qui arrête les méchants est un super-héros. Alors vraiment, pour que les jeunes comprennent qu'on est entouré de super-héros au quotidien et qui, des fois, sont dans l'ombre.
Et comment vous faites pour construire les personnages un peu plus masculins? Vous êtes une femme. Comment vous faites pour construire, par exemple, le personnage de garçon?
C'est très facile pour moi parce que le plus loin que je me rappelle, si je remonte dans mon enfance, je dis toujours que je suis un petit garçon manqué. Je suis une fille qui adore les voitures, je suis une fille qui adore le hockey. J'ai passé, je dirais que j'ai passé 90% de mon temps quand j'étais petite, plus avec mon père qu'avec ma mère, les trucs de garçon m'ont toujours beaucoup intéressée, bien que je sois une fille qui aime plein de choses de filles. Alors, sincèrement, c'est pas dur pour moi de me mettre dans la peau d'un garçon. Et, comme je le dis, mon fils a joué au hockey pendant 8 ans, alors des petits gars, j'en ai côtoyé beaucoup. Je les côtoie depuis qu'ils ont 4-5 ans. Et mon fils est rendu à 16 ans aujourd'hui et je suis encore entourée beaucoup de garçons à la maison. Bien que j'ai une fille, tu sais, je côtoie les filles aussi. Mais donc, c'est vraiment pas difficile pour moi de me mettre dans la peau d'un petit gars. C'est plus facile pour moi d'écrire des livres de garçons que d'écrire des livres de filles. Vraiment.
Et un jour, est-ce que vous pourriez écrire des livres plus pour adultes? Parce que là, vous êtes spécialisé plutôt dans les livres pour enfants et aussi un livre pour adolescents. Mm-hmm. Mais les livres pour adultes, est-ce que ça vous tenterait?
J'ai toujours dit que la réponse était non. Parce que j'adore écrire pour la jeunesse. Moi, j'aime la naïveté des jeunes. J'aime que on leur dise que le ciel est rose, que la pelouse est bleue, et que si on leur apporte bien cette situation-là, ils vont embarquer avec nous dans notre folie. Je trouve que quand on vieillit, des fois, on devient plus monotone, on devient plus, je sais pas, je dirais pas plate, mais tu sais, on perd cet esprit naïf-là que la jeunesse a. Ça, c'est ce que j'ai toujours cru. Par contre, ce que je me rends compte, c'est que mes enfants, à moi, vieillissent. Ma fille a 18 ans aujourd'hui, mon fils a 16 ans, et je me rends compte que mes personnages vieillissent en même temps que mes enfants, parce que j'écris, tu sais, on écrit toujours sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on apprécie, sur ce qui nous entoure. Donc, la réponse a toujours été non. Maintenant, je te dirais que la réponse est peut-être. Peut-être qu'un jour, j'irai faire un tour chez les adultes, mais pour l'instant, je tiens encore fermement à continuer d'écrire pour les jeunes, parce qu'en plus, un jeune qui vient te voir, il va te dire « c'est tellement bon ce que tu fais, j'aime ça », dans ses mots à lui, avec ses expressions à lui. Et on n'a pas cet amour-là des adultes. Ils vont venir nous voir, « oui, j'ai beaucoup aimé votre roman, blablabla », mais ce ne sera pas la même dynamique ou la même énergie que ce que le jeune apporte. Et moi, mon père a 82 ans aujourd'hui, et mon père m'a toujours dit « je ne vieillirai jamais tant que j'aurai 9 ans dans ma tête ». Et ça m'a toujours resté à l'esprit. Et moi aussi, un jour, j'ai décidé d'arrêter de grandir mentalement. Bien, j'ai grandi quand même. Tu sais, je suis une adulte qui s'assume totalement. Oui. Mais je persiste à croire que moi aussi, je vais toujours avoir 9 ans dans ma tête.
Et je sais qu'il y a quand même beaucoup d'auteurs qui ont un autre métier en plus du fait d'écrire des livres. Est-ce que vous vivez de votre métier?
Je commence tranquillement, pas vite, à vivre de mon métier, mais moi aussi, j'ai un autre métier. Alors, en fait, je dirais que j'ai mille et un autres métiers. Je suis linguiste de formation, donc j'ai étudié la linguistique et les communications. J'ai toujours évolué dans le domaine du français et des communications. Alors aujourd'hui, je fais de la révision linguistique, je fais de la lecture de romans, je fais du sous-titrage pour les malentendants. Alors, je suis toujours constamment dans le français. Je fais aussi beaucoup de tournée d'auteur, beaucoup d'animation dans les écoles. Donc, je te dirais que quand j'ai commencé mon métier d'auteur, la part financière de mon travail d'auteur devait représenter 2% de mon année. Et là, le pourcentage augmente. Je te dirais que je m'en vais vers le 40, le 50%. Alors, le but, c'est d'un jour vivre seulement que de ma plume. J'espère y arriver un jour, mais c'est un défi au quotidien. Tu sais, une série peut fonctionner. Qui sait le livre que je vais écrire demain? Est-ce qu'il va fonctionner aussi bien que les Rocketville? On ne sait jamais. Tu sais, quand on termine un manuscrit, on peut penser qu'on vient d'écrire un magnifique livre que nous, on va vraiment aimer, mais est-ce que le public va le recevoir comme nous, on espère? Ça reste un mystère à chaque fois. Qu'est-ce qui fait qu'un livre prend son envol? Qu'est-ce qui fait qu'un livre va être moins apprécié? Est-ce que, tu sais, il y a tellement de facteurs. Donc, la réponse, c'est oui, j'espère qu'un jour, je vais vivre uniquement de ma plume. Je le souhaite. Vraiment. Pour l'instant, je suis sur la bonne pente. J'espère juste de continuer à monter et de ne pas redescendre trop rapidement.
Et alors, j'ai l'impression que vous êtes quand même une super maman. Vous avez des enfants, vous êtes auteur, vous avez un travail. Alors, quand est-ce que vous trouvez le temps d'écrire?
Je te dirais que plus je suis occupée, plus je travaille, mieux j'écris. Je suis quelqu'un qui a... En fait, je dirais que j'ai pas de zone grise, c'est soit blanc. En fait, dans ce cas-là, j'ai des zones grises à plein d'autres endroits. Mais plus je suis occupée, plus mon cerveau travaille, meilleur je suis quand je m'assois pour écrire à mon ordinateur. L'été, c'est une période très, très calme pour moi où je travaille très peu parce que dans mon domaine, il n'y a pas tellement d'ouvrages l'été. Il n'y a pas de salon du livre, il n'y a pas d'émissions qui se créent à la télé. Donc, c'est une période calme pour moi. Normalement, j'aurais 3 mois pour écrire. Mais mon cerveau est tellement au ralenti à ce moment-là que c'est difficile pour moi d'écrire dans ces périodes-là. Donc, je te dirais que plus je suis occupée, plus je travaille, mieux je suis pour écrire.
Daniel Bouliane, merci beaucoup. Votre dernier livre, Bienvenue à Rocketville, les gérants d'Estrade, est paru aux éditions Phoenix. Ouais. Daniel, merci.
Merci.
Et nous étions sur Choc FM au Salon du Livre. Et c'était Kitry Hervouette.